Bonjour, merci beaucoup. Un point qui n'a pas été abordé aussi et moi qui me pose beaucoup de questions parce que je travaille sur la danse, c'est toute cette musique qui est faite, que ce soit dans les battles ou pas, pour danser et qui est une musique complètement cachée où finalement il y a très peu de représentants qui sortent des CD, qui sortent des albums. Où c'est vraiment sur Internet, même moi qui suis un peu dans le milieu de la danse depuis 1 ou 2 ans, j'ai du mal encore à savoir où ils fournissent tous ces danseurs. Et d'où ils sortent cette musique qui est infinie en fait, enfin, qui ne s'arrête jamais. Et du coup, je me demandais, enfin voilà, quelle place aussi. Et puis, ce serait vraiment intéressant de mener des études sur cette musique, enfin, qui en plus prennent les catégories de danse, lock, on voyait un peu lock, pop, etc. Voilà, et quelle place. Et une deuxième question un peu, si je peux me permettre aussi, c'est justement, il y a cette question au Brésil, on est MC, on fait tout, danse, rap. On fait du DJing. Aujourd'hui, on se pose la question aussi du rapport dans le hip-hop en France entre les différentes disciplines du hip-hop. Quel rapport entre danse et rap, par exemple, entre graph et rap, etc. Comment, enfin, voilà. Est-ce que je ne sais pas s'il y a des éléments de réponse déjà ou pas, ou si c'est des questions à étudier par la suite. Merci.
Merci pour les questions. C'est des questions vastes. Sur la danse, c'est la branche pour moi qui est la plus qui me concerne le plus dans le hip-hop. C'est des gens qui moi, on en parlait tout à l'heure avec Karim, nous on a monté un projet il y a quelques années d'université hip-hop mobile, et il s'agissait de s'implanter dans un endroit et de travailler à réfléchir sur les différentes disciplines du hip-hop avec des ateliers de pratique bien évidemment, mais aussi dans chaque atelier avec deux intervenants formateurs pour qu'ils interrogent leur pédagogie. Et ce dont on s'est rendu compte, ce qu'on savait déjà, c'est que la danse avait 25 ans d'avance en termes de passation, de pratique, de cours sur le rap, le turntablism, etc. Et donc c'était hyper intéressant de voir à quel point les danseurs avaient réussi à se structurer avec le temps. Et on a aujourd'hui des compagnies de danse qui viennent du hip-hop, qui sont reconnues internationalement. Il y a énormément de choses dans les théâtres, on en voit, etc. Même si c'est loin d'être complètement démocratisé, et la danse a pris un chemin particulier. Et moi, j'ai toujours dit que, à part les beatboxers, les danseurs sont ceux qui travaillent le plus. C'est vraiment des gros bosseurs. Et de fait, moi, j'invite tout le monde à le faire un jour dans sa vie. Un jour, je suis allé à une battle de danse, je crois que c'était Battle of the Year, peut-être je me trompe du nom, il y en a tellement, mais qui se passait à Chelles. Donc, je suis allé avec ma famille, et le truc n'était pas fléché, enfin, c'était au fin fond de Chelles, dans un gymnase, et on a mis du temps à trouver. Une fois qu'on est rentré dedans, il y avait 3000 personnes de 55 pays différents. Mais vraiment, et là, tu te dis, bon, il y a un truc qui se passe dans la danse que le rap n'a pas compris, quoi. Il y a un truc qui se passe dans la danse qui est assez fabuleux. Il y a un vrai réseau. Et je pense que, pour prendre simplement exemple, Juste Debout, par exemple, qui est un truc mondial, raconte à quel point cet art-là s'est structuré. Et comme c'est quelque chose qui demande énormément, en tout cas, c'est mon regard de non-danseur, ou en tout cas de danseur à la retraite, si on peut dire. Et mon regard là-dessus, c'est que c'est des gens qui ont énormément travaillé. Et la danse, ça nécessite du travail. Il n'y a pas. Sauf que là où moi, demain, je peux enregistrer un morceau en 5 minutes en studio parce que j'ai suffisamment de bouteilles, écrire une chorégraphie, ça demande quand même du temps, quoi. Il y a quand même une chose dans une différence entre ces arts-là qui implique une autre façon de le pratiquer. Et ta deuxième question que je suis en train d'oublier, qui parlait de...
La musique dans la danse.
Ouais, alors du coup, il y a pareil que dans le rap ou dans le jazz, il y a plein de danses très très différentes. Et donc, on arrive à un ensemble de petites niches. Moi, je connais des gens qui dansent la house et ce qu'ils écoutent, c'est très très pointu. On n'entend pas à la radio. Et nous, il ne faut pas oublier que notre génération, pour parler des gens de mon âge, nous, on a parfois traversé la ville entière pour aller chercher un CD ou un vinyle. On est de cette génération-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas connu, je trouve, le son que je cherche en 2 clics. Donc, pour nous, avoir toutes les choses à porter, c'est hyper facile de trouver des choses maintenant. Et on est vraiment une génération de gens, je pense que tout le monde connaît un DJ qui te raconte ce qu'il a fait pour trouver ce vinyle qui lui manquait, et on était vraiment des chercheurs d'or, quoi. Et donc aujourd'hui, dans ce monde-là où beaucoup de choses sont accessibles, bah pour nous c'est énorme, et donc ça continue de se construire. Et pour le coup, je parle que de ma génération.
Je peux rebondir sur la danse. Je me suis posé la même question que toi. J'ai fait le Juste Debout l'année dernière en tant que réalisateur et compositeur. Je vais te parler d'une première chose. En fait, j'ai fait des battles de beatmaking et j'ai fait un remix des Beatles de Yesterday, version popping. Je fais le battle, la vidéo sort Et là, j'ai plus le contrôle de rien. Le monde de la danse s'est emparé de mon son. Je l'entends partout. Je regarde tous les jours sur YouTube. Il y a toujours une nouvelle vidéo, un mec dans sa chambre, sur un battle, etc. Je me suis dit, mais c'est incroyable à quel point le monde de la danse est puissant. Il a fait le tour du monde en moins d'un an, le son. Et j'ai rien fait pour. Je fais le juste debout. Red Bull diffuse, etc., etc. Et je m'aperçois que si moi, je charbonne pas, personne va me retrouver. Personne va écouter le son et le chasamer. Je suis pas sur Spotify ni rien. Donc du coup, il va falloir que je charbonne. Donc du coup, je fais des posts. Je vais sur SoundCloud et hashtag juste debout, hashtag ceci, hashtag cela. Je vais sur YouTube, toutes les vidéos Red Bull, les vidéos des amateurs, etc. Dès qu'il y a mon son, je vais dans les commentaires. C'est mon son, tu peux le retrouver là. Et un peu pour répondre à ta question, je pense que c'est peut-être au beatmaker de faire ce taf-là finalement, parce que dans le monde de la danse, il y a tellement de sons, ça tourne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je pense pas que les troupes, les danseurs, de manière individuelle, puissent prendre le temps eux-mêmes de rechercher la source. Ça se trouve, c'est un MP3 qu'il a récupéré. Il n'y avait pas le titre, il n'y avait pas l'artiste. Donc voilà, je pense que c'est au beatmaker aussi de faire le taf s'il voit que le crédit n'est pas donné du côté des utilisateurs, quoi. Voilà.
Oui, bonjour, je m'appelle Jeff. Je travaille sur les liaisons qu'il peut y avoir entre la musique contemporaine et les musiques actuelles, et en particulier la chanson française. Pas vraiment l'enjeu de ce truc-là, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir des points de vue différents. J'avais trois remarques qui sont peut-être des formes de questions, je ne sais pas. Le general intellect, alors c'est à un moment donné, qu'est-ce que la musique hip-hop depuis ses premiers âges jusqu'à aujourd'hui est en mesure d'apporter à l'ensemble de la société, c'est-à-dire il y a une musique qui correspond à une esthétique très particulière, et comme on est sur une question du débat où on est au-delà du rap, je me pose la question de savoir à un moment donné ce qui déborde du rap pour aller envenimer l'ensemble de la société à travers des thèmes de recherche, des traits de société qui sont plus du tout ceux du rap, mais qui sont ceux de la société dans son ensemble. Donc ça, c'est une première question que je me pose, que je voudrais vous poser. Deuxième chose, c'est à un moment donné la remarque sur que tu faisais mais qu'on retrouve aussi chez pas mal d'artistes, qui consiste à s'extraire du merchandising, du show business, de ces choses-là, pour accepter son travail comme étant intègre par rapport à un environnement où l'on ne se retrouve pas. Et je ne sais pas, j'ai envie de répondre aussi que un artiste, à un moment donné, il est peut-être aussi en mesure de pouvoir travailler sur plusieurs plans, de savoir définir des publics différents à l'écoute d'échelles différentes dans la perception d'une musique. Et c'est vrai que tout d'un coup, j'ai cherché des exemples, je n'en avais pas là dans l'histoire de l'art, d'artistes qui, parce qu'ils avaient aussi besoin d'argent, se sont mis à faire des projets et qui ne correspondaient pas vraiment à l'intérêt, à l'intelligence qu'ils voulaient y mettre dedans, mais à quelque chose qui pouvait leur apporter, mais qui aussi leur permettait de pouvoir ouvrir à un public qui ne correspondait pas à l'intégrité qui pouvait être celle de la personne. Donc là, voilà, aussi une forme de question. À un moment donné, par exemple, j'ai pu écrire des chansons qui, au premier abord, ne correspondaient pas à ce que je pouvais faire, mais il me semblait qu'à l'écoute, ça pouvait fonctionner au-delà de ce que je pouvais présenter. Deuxième chose. Et la troisième chose,
peut-être voir plus de prise de parole, et donc garder votre troisième point s'il n'y a pas d'autres questions pour plus tard.
Oui, c'est une question sur le rapport entre la création et la diffusion, ce que c'est vraiment que la création et comment elle se pose en contre
voilà, les... Répondre aux deux premières questions déjà, merci.
L'académisme, voilà. Excusez-moi.
Tu es le bienvenu, Jeff. Sur la première question... Moi, il y a une chose qui m'a énormément touché là, ces derniers mois, C'était venu avant aussi. C'est la façon dont les manifestations contre Halo El Khomri ont été réprimandées dans la violence par la police. Et on a eu tout un pan de la population française qui comprenait que la police pouvait être violente. Ce qui pour nous, on rit, ce qui pour nous, membres de la communauté hip-hop, c'est la base, la police peut être violente. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, on avait une partie de la population ayant baigné dans cet univers-là, la culture hip-hop. Il faut savoir que le commun des mortels, qui n'est donc pas nous, ne connaît pas l'affaire Rodney King, ou a très peu entendu parler de ça. Nous, à travers cette musique, à travers ce mouvement qu'est le hip-hop, on était au fait de ces choses-là. Et ça fait qu'on a grandi, par exemple Black Lives Matter, nous on a grandi en sachant, que pour les Noirs aux États-Unis c'était très compliqué avec la police. On a grandi avec ça. Alors que des gens de notre âge découvrent ces choses-là depuis 5, 10 ans peut-être à peine. Et c'est en ça que pour moi, la culture hip-hop a pénétré les artères de la société. C'est-à-dire qu'elle nous permet de regarder le monde d'une certaine façon. Et c'est le monde. C'est-à-dire que quand t'es allé en République tchèque et que le DJ a balancé Sound of the Police de KRS-One et que tout le monde a dansé, tu te dis bien qu'il y a un truc, on n'est pas dans un microcosme ni dans une mode passagère, il y a quelque chose de plus grand. Donc effectivement, nous, il y a une approche sociétale qui est du hip-hop. Il y a un regard posé qui est très particulier, qui est du hip-hop, et qui est dû au hip-hop, et qui nous donne une vision un peu globale, puisqu'on écoute des textes et qu'on peut les faire traduire, et que de fait, on peut avoir 17 ans dans les années 90, être à Bobigny, et savoir ce qu'un mec du Queens pense, ce qui est juste hallucinant, avant Internet. Avant YouTube, avant tous ces transferts de données, juste avec des cassettes ou des disques. Donc, et je pense que finalement, quelque part, et c'est pour ça, à mon avis, qu'on assiste aussi à une espèce de mutation même de la société française, dans les thématiques, etc. C'est qu'on arrive avec des gens, maintenant, voilà, on commence à prendre de l'âge, avec des gens qui ont baigné dans le hip-hop, qui sont adultes, qui ont des enfants, qui ont des métiers, quels qu'ils soient, et qui ont baigné dans cette culture. Et donc, de plus en plus, je pense qu'on va retrouver les thématiques du hip-hop dans notre quotidien, et c'est ce qu'on est en train de se faire. Et qu'au fur et à mesure, les gens qui ne connaissent pas vont apprendre à lire les livres qui vont être écrits, à écouter les choses qui sont dites, etc. Et ta deuxième question... Ah, moi, tu veux y répondre, Emeka. Excuse-moi.
Je peux peut-être prendre le relais sur la première question, mais d'un point de vue de musicien. Ce que je constate, pour... travailler avec Skalpovic, qui est hyper ouvert aujourd'hui à tous les styles musicaux, c'est que la variété a la pression. On leur a mis la pression avec nos subs, avec nos caisses claires qui frappent, etc., etc. Et comme le hip-hop en général est en train de prendre du terrain, les façons de faire techniques de la variété française sont en train de muter vers on a du boulot les gars. Et je citerai pas le nom de l'artiste avec qui j'étais hier soir, mais un grand artiste de la variété française est en train de vouloir se faire produire par des gens du hip-hop.
Bah, entre nous, tu peux le dire. Enfin, ça va pas fuiter, je pense pas.
C'est filmé. J'ai pas le droit d'en parler. Mais vraiment un grand artiste de variété française.
J'aimerais savoir ce qu'est un grand artiste de variété française déjà. Non, mais donne-nous juste le nom, on en fera rien.
Un très grand vendeur. Ça commence par Patrick. Et du coup, enfin voilà.
Balkany.
C'est ça.
Lui, c'est le plus grand.
Et du coup, voilà, on en parlait et ils ont vraiment la pression. Mais quand je dis ça, je rigole, bien entendu. On est tous potes.
Et pour la deuxième question, alors je l'ai dit, hein, je le répète, hein, j'ai aucun problème avec les gens qui font de l'argent, vraiment. C'est un métier. Enfin, voilà, tous ces gens qui vivent de leur part créatrice, je trouve ça extraordinaire. Il n'y a pas de problème avec ça. Et de toute façon, moi, j'ai des potes qui sont écrivains et qui ont leurs pièces phares, qui sont des gros romans qui sortent tous les 4 ou 5 ans. Et entre-temps, ils font des livres plus petits pour faire de l'argent, etc. etc. Chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de jugement de valeur. Moi, si je savais faire beaucoup d'argent pour m'acheter des grandes maisons, franchement, je ne me gênerais pas. Franchement, je me gênerai pas. Mais c'est extérieur à moi. C'est même pas dans mes prétentions, même pas dans mes envies, parce que je ne sais pas faire ça. Et ceux qui savent le faire, faites-le, faites-vous plaisir. Vous avez vu, je ne vais pas parler de François Fillon, quoi, mais le monde est quand même à la haute finance. Donc faites du blé. Et puis en plus, si les gens réussissent bien et qu'après ils font un peu de politique et que finalement ils sont prendre la main dans le sac, ils vont finir à la santé. C'est quand même plutôt moins pire qu'ailleurs. C'était mon mot de la fin.
On n'est pas obligé de finir tout de suite. On peut prendre quand même une petite question ou deux encore.
C'était juste pour compléter ce que dit, vous venez de dire. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu. Q-Tip a dit exactement la même chose que vous, mais à l'interne des États-Unis. Il a dit, je crois que c'était lors de la première élection d'Obama, il a dit, je pense à une revue musicale suisse qui n'existe plus, dans un entretien, il a dit quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que vous avez dit, qui vraiment m'a fait penser à ça. Il a dit, le hip-hop a beaucoup plus participé à l'élection d'Obama que l'ensemble de ses discours, parce qu'en fait, il a fait comprendre aux petits jeunes blancs des classes moyennes des problèmes dont ils ne connaissaient même pas l'existence, et il leur a fait prendre un tout petit peu conscience de ce que ça pouvait être que la vie quotidienne des jeunes afro-américains, et du coup ça a rendu possible qu'un président métis soit dans l'ordre du possible dans les élections. On peut pas vérifier ça, mais en tout cas il y a une hypothèse qui ressemble beaucoup à ce que vous dites.
Alors moi j'ai une question, s'il n'y a pas d'autres... Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé là, c'est la porosité qu'il peut y avoir entre le rap et le slam, mais aussi une lutte fratricide, le slam ayant été souvent conçu, perçu par un certain nombre de rappeurs comme étant, et d'acteurs du monde du rap, comme étant un moyen de rendre visible et fréquentable des rappeurs, ou en tout cas un mode d'expression qui ressemblait au rap. Et du coup, bien sûr, si je pose la question, c'est pour avoir ton avis en tant que rappeur et slammer, et de comprendre comment toi tu peux passer sans problème de l'un à l'autre, ou peut-être avec problème.
Alors, c'est marrant ce truc des rappeurs, enfin ce discours-là, je l'ai un peu entendu et ça m'a toujours fait rire parce que c'est intéressant parce qu'on se retrouve avec des rappeurs qui se mettent à parler comme des journalistes qui parlaient du rap, qui ne connaissaient pas le rap. C'est-à-dire que nous, on a été très très virulents à l'égard des journalistes qui pensaient que le rap c'était que Alliance Ethnique et MC Solar, parce qu'on savait ce qu'il y avait derrière. Et donc d'avoir quelques années plus tard des rappeurs qui sentaient tout un mouvement autour d'un artiste ou deux artistes qui auraient émergé, c'est assez ironique. Moi, ça m'a fait vraiment sourire. Et après, à l'époque, je le disais, et voilà, même si aujourd'hui ça a beaucoup changé, je disais, mais venez voir ce qui s'y passe. Vous allez prendre des gifles monumentales et c'est pas la nouvelle star. Enfin, les Sensam, c'est pas la nouvelle star, quoi. Et donc, ce qui était hyper touchant dans ce mouvement-là, quand ça a commencé, c'était la pluralité des formes d'expression. C'est pas du rap, c'est même pas du rap a cappella, c'est de la poésie scandée et chacun y va avec. Et je parle vraiment des premières scènes qui étaient complètement a cappella, etc. Et donc il y avait des gens de tout horizon et ça allait dans tous les sens. Et ensuite, il y a Grand Corps Malade qui a fait un disque qui a énormément marché et il s'est retrouvé sur le devant de la scène. Il avait beau dire que ce qu'il faisait sur le disque c'était pas du slam, on l'a identifié comme artiste slam parce qu'il venait de cette scène-là. Mais n'importe qui fréquentait, moi, nous on a fait les soirées bouche à oreille pendant 3 ans, n'importe qui venait à cette soirée voyait bien qu'il existait plein de choses très très différentes et qu'il n'y avait pas simplement Grand Corps Malade. J'y pensais encore il n'y a pas longtemps, la punchline la plus hardcore du slam, elle est 1000 fois plus hardcore que la plus hardcore de toutes les punchlines du rap. Et je vais vous la dire. Non, je peux pas. J'ai bossé avec quelqu'un qui écrivait « Oh mon Dieu, mon anus en sang, le bras d'un homme rentre dedans. » Il n'y a pas un rappeur qui dit ça. Et comme ça, on en a des kilomètres, on a fait 4 disques, quoi. Donc, on les attend. Et puis, effectivement, c'est assez facile pour moi d'être aux deux endroits parce que c'est deux pratiques poétiques. Moi, à un moment donné, je me suis, dans ma façon de rapper, dans ma façon d'écrire le rap, je me suis interrogé parce que j'écrivais de plus en plus pour le théâtre. Et je trouvais que mon rap était moins exigeant que mon théâtre. Et ça m'a pris la tête parce que je suis quelqu'un d'exigeant et j'avais envie d'un peu de me déplacer. Et j'ai commencé à travailler différemment mon écriture. Et aujourd'hui, sur un même morceau, je vais entre slam scandé et rap rappé, ou je sais pas. moi j'appelle ça notre rap, c'est plus simple, c'est ma définition. Et donc voilà, je pense que avec des artistes comme Saul Williams ou Mike Ladd, il y a ce lendemain du rap ou Sage Francis, etc. Ça continue. On est vraiment dans quelque chose qui va continuer à exploser et se transformer. Enfin, le rap, faut le voir comme un monstre qui cesse de se transformer, quoi, et qui peut pas mourir. C'est que là, quand on entend qu'il y a des grandes stars de la variété qui préparent des flows, j'ai hâte.
Merci. Donc c'est très intéressant d'avoir vos parcours un peu, et ma question est peut-être à marge du thème de la table ronde, mais c'était plus par rapport à vos parcours. Je m'interroge souvent sur le poids des réseaux sociaux, mais les vrais, les relations humaines dans ce genre de carrière, quand on est artiste, quand on est producteur, enfin dans tous les domaines. À l'heure où on peut poster très facilement des sons sur internet, vendre ses prods, etc. Le fait d'être dans les bons endroits, de fréquenter les gens, d'avoir un relationnel, quoi. Est-ce que ça a toujours été au cœur de votre développement, on va dire, et qu'est-ce que vous en pensez en termes de, voilà, pour en général, pour le développement artistique, cette relation entre le vrai réseau social et internet?
Pour ma part, c'est indispensable. Enfin, ça l'était en tout cas. Aujourd'hui, j'ai percé, j'ai signé, donc ça, le boulot vient à moi, j'ai de la chance. Mais jusqu'à l'année dernière, en gros, les réseaux sociaux et les soirées dans lesquelles je vais, c'est hyper, hyper important pour le réseau. Pour justement parler de mes projets, workshop studio, les tutos, les workshops que je fais au studio de la scène et tout. Si je ne suis pas très présent sur les réseaux sociaux, et tous confondus, et très présent aussi physiquement, je n'optimise pas mon projet, concrètement. Donc, indispensable pour ma part.
Je suis d'accord avec toi. Alors moi je sors pas, c'est un peu voilà, on a fait des enfants assez tôt, et donc très vite j'ai arrêté de sortir. Puis nous on vient d'une époque où on pouvait pas entrer dans les clubs, hein. c'était vraiment autre chose, les clubs hip-hop ça n'existe pas, donc on a très vite appris à pas sortir. Du coup je dois rendre ça à la France, merci, tu m'as appris l'assiduité à la maison. Et donc je sors très peu, très très peu, je sors pas assez, je vais pas assez au théâtre, je vais pas assez voir des concerts, j'en suis conscient. Après en même temps on peut pas tout faire. Et moi je fais partie de, dans le cercle de mes proches, je suis celui qui allait en dernier sur Facebook. Ça me gonflait, enfin les trucs nouveaux, moi ça me saoule un peu, donc faut que je prenne du temps, je suis un vieux. Et en fait je me suis rendu compte il y a pas longtemps que c'était dans une période où je suis mes pièces jouent pas, où les disques sortent pas, et moi je peux continuer à écrire et produire du texte, des textes, après il y a des statuts qui parlent de rien et tout, mais produire des textes un peu de fond, mon Facebook me sert à ça, me sert à continuer à être présent et alimenter la réflexion, et puis et à faire des rencontres aussi, c'est-à-dire qu'on passe effectivement du virtuel au réel. Après moi je suis pas tellement d'accord avec le virtuel, enfin, pour moi c'est pas si virtuel que ça, quoi. C'est-à-dire que moi je prends souvent cet exemple là quelqu'un vous envoie un message privé, vous discutez, et puis après il se met à vous insulter pendant une demi-heure, vous allez couper la conversation, ce sera pas virtuel les effets ressentis, quoi, ce sera vraiment réel, quoi. Donc pour moi n'a de virtuel que le nom, quoi. C'est des gens qui sont derrière leurs écrans, on peut aussi couper effectivement, mais une fois qu'on s'engage dedans dans cette conversation, dans cet échange, on est dans du tangible, en tout cas c'est mon point de vue. Et donc c'est assez important pour moi, c'est pas le truc le plus important de la terre, mais ça permet de rester en lien avec ce qui se passe. Et moi c'est vrai que je me rappelle le jour où je me suis inscrit sur Facebook, c'est le jour où j'avais vu passer un sondage selon le sondage, je sais pas combien de pourcents de Français accordaient encore du crédit à DSK. Ça m'a rendu fou. Et je me suis dit, il faut absolument que je me connecte aux gens que je connais qui pensent pas du tout ça. Donc j'ai créé mon profil Facebook ce jour-là pour être connecté à cette autre part des Français qui ne sont jamais sondés. Et du coup, voilà. Du coup, ça a commencé comme ça. Et puis, et je trouve que c'est une super mine pour trouver des choses un peu rares. Et il y a une espèce de Mais c'est comme tout, il faut pouvoir couper aussi de temps en temps, etc. Mais moi, c'est un bel outil. J'ai écrit des textes conséquents qui ont fait bouger les gens. Et puis après, moi, comme je suis quelqu'un qui aime bien transformer les matériaux, il y a pas mal de choses qui sont parties d'un article Facebook, qui sont devenues un morceau de rap, qui sont allées dans une pièce de théâtre, et inversement. Et ça, le dernier projet qui est sorti, qui s'appelle Face B, FB, c'est un projet précisément où tous les textes sont partis de statuts Facebook que j'ai transformé en rap. Voilà, je m'amuse comme je peux.
Une dernière question, peut-être ? Il y avait... non ?
Si, il y a Jean-Pierre.
D'accord. Bon, question courte, réponse courte. On va faire un petit jeu.
Oui, je voulais demander, vous demander de manière générale. Je vois que dans ton travail, tu travailles souvent avec des gens qui sont issus du rock alternatif. Je pense à Franco Manara, qui sont aussi du jazz. Je pense à Franck Vaillant. Je vois que tu n'es pas le seul. Je vois Kazé qui a travaillé avec Serge Tessoguet. Récemment, j'ai vu le concert de Ursus Minor. Je ne sais pas si tu connais.
J'étais sur leur premier album.
Ah oui, c'est vrai. Et j'ai été complètement époustouflé par le travail de Desdemona avec des gens comme Tony Imas et tout ça. Donc je vois que la musique s'ouvre énormément du côté des artistes hip-hop. Et je voulais savoir ce que toi, tu recherchais quand tu fais ce type de confrontation.
Merci pour cette question. Parce qu'elle elle a pas mal déterminé qui je suis aujourd'hui. En fait, moi, j'ai eu la chance très très jeune de croiser le fer, si on peut dire, avec des gens comme Marc Ducret, Sylvain Cassa, Benoît Delbecq, sans savoir ce qu'ils représentaient dans la sphère de la musique improvisée. Or, les mecs, c'est quand même des demi-dieux. Et en fait, très très vite, en voyant jouer Ducret, en voyant jouer Delbecq, je me suis dit, moi, mon instrument, c'est ma voix. Et je veux absolument maîtriser mon instrument comme eux maîtrisent le leur. Donc j'ai vraiment bossé pour ça. Et ma rencontre avec Franck Vaillant a continué à alimenter ce truc-là. Et en fait, ce que je recherche, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, je pars du principe que évoluer dans une seule pièce, quelle qu'elle soit, que ce soit le dessin, la poésie, la musique, évoluer dans une seule pièce, à un moment donné, ça... On peut devenir un spécialiste de sa pièce, etc. Mais moi, j'aime bien les portes, j'aime bien passer d'un monde à l'autre. Et l'idée, c'est un peu aussi comme le MMA que j'aime beaucoup, c'est aussi dire, le MMA, c'est tous les sports de combat mélangés qui s'affrontent dans un seul et même sport, et pour faire très très court. Et le truc, c'est de dire, moi qui viens du karaté, qu'est-ce que mon art martial vaut face à quelqu'un qui fait de la boxe thaï, par exemple. Et moi, qui suis vocaliste, qu'est-ce que mon art vaut si je joue avec un Benoît Delbecq qui est au piano et un Franck Vaillant qui est à la batterie. Il est hors de question que je me sente perdu. Donc comme moi, dans quel sens je vais travailler, et je me rends compte, tu parlais très de trio schizophonie, j'essaie de faire court, mais la question m'intéresse, merci Jean-Pierre de l'avoir posé, donc je continue. Le trio schizophonie, c'est un trio de human beatbox, en impro, 100% impro, où on est, et c'est un trio musical, on peut mettre des textes dessus, mais la base du projet, c'est de la musique. Et en fait, finalement, on est l'un des rares groupes de musique hip-hop improvisée. Et je me rends compte qu'en fait, si j'ai pu faire cette musique-là, c'est parce que j'avais travaillé avec ces gens-là depuis des années. C'est-à-dire que moi, quand je travaille avec ma loupe tout seul, quand je commence à créer ce truc-là tout seul, je répète, je fabrique mes routines. Et puis, 6 mois après, quand je dois refaire un concert, je me dis, mais je vais pas faire la même chose, c'est pas possible. Et si je me dis ça, c'est parce que la première fois que j'ai fait des boucles, c'était avec Benoît Delbecq, et qu'après qu'on ait répété, il les a effacés, j'ai fait, pourquoi t'effaces ? Mais non, c'est ça, on crée l'instant, etc. Et du coup, et moi, ce qui m'intéresse, c'est la prise de danger, quoi, la prise de risque. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que j'ai beaucoup travaillé pour vivre de ce que je fais, et donc je suis hyper content de ce que je fais. C'est une espèce de monde parallèle où je bosse beaucoup en collège et en lycée, et quand je rencontre des élèves, je leur dis moi mon travail, c'est des fois je me lève, j'ai une idée, je la note sur un document Word que j'ouvre, et 2 ans après on est sur scène, on est 15 quoi. C'est quand même assez fabuleux de pouvoir faire ça. Et ben dans ce monde là moi je pense qu'il faut prendre suffisamment de risques pour avoir peur de mourir. C'est comme ça que je définis mon truc. Si je suis pas en danger, si j'ai pas peur de perdre quelque chose, je me sens pas animé. Et quand je me sens pas animé, je suis triste. Et quand je suis triste, je suis relou, etc. etc. Et donc comme j'ai pas trop envie d'être relou, parce qu'il y en a d'autres, ils font très bien le job, j'essaie d'être heureux dans ce que je fais. Et donc moi, ce qui m'a poussé à travailler avec tous ces gens-là, c'est pas simplement le goût du défi, c'est voilà, comment je vais me faire à ce truc-là, qu'est-ce que ça va provoquer en moi comme changement, comme excitation et comme façon d'écrire, etc. Et pour moi, l'un des plus beaux projets qu'on ait fait, c'est la théorie du chaos. Un groupe qu'on a monté, un groupe éphémère pour un projet qu'on a monté avec Marc Ducret, Alix et Wendy, Professeur Calabas et Franco Manara, et ça a été voilà, il y avait ce folk orchestra, et puis il y a ça aussi qui est pour moi des moments très particuliers dans mon aventure. Et je peux en parler pendant 3 jours, mais grosso modo c'est ça, merci.
Merci beaucoup. Donc dès on te retrouve à 19h30 pour une scène cette fois artistique. Et peut-être MKL, à part le rendez-vous sur les workshops studio, toutes les personnes qui sont là, est-ce que tu veux ajouter un mot?
Merci beaucoup.
Merci à vous.